America.
Radio Picard. La radio de l'au-delà.
La radio de l'au-delà.
Alors bonsoir, nous sommes aujourd'hui au Bocal, Romy présentement, pour parler avec une invitée très très spéciale, en la personne de Émilie. Bonsoir Émilie. Donc aujourd'hui on va parler, on va partir sur au-delà des PK un petit peu avec Émilie, hein, parce que... Émilie aime bien ce qui est spirituel et connaissance peut-être que le commun des mortels a oublié.
Exactement.
D'accord. pourquoi commençons-nous ? Je pense qu'on va pouvoir commencer par des histoires de chaman, je dirais. Parce que le chaman est un petit peu à la base de tout. Ce que tu pourrais nous expliquer, c'est quand même comme un guide.
Les chamans, ben... Je pense qu'on est tous des chamans, mais des chamans endormis pour la plupart. Et qu'en fait, ce qu'on appelle chamans maintenant, ce sont juste des gens qui sont réveillés, qui ont eu accès à leur perception et à des pouvoirs extrasensoriels, mais qu'on serait tous en mesure d'avoir si on se donnait les moyens. Parce que c'est beaucoup d'efforts pour ouvrir tous ces canaux de perception.
C'est des efforts, mais peut-être qu'on n'a pas le temps dans la société dans laquelle on vit et on n'a pas la connaissance aussi. Si tout le monde, depuis tout jeune, apprenait ce genre de pratique, on aurait certainement moins de soucis et de difficultés à les atteindre, puisqu'on les atteint quand on a sorti un peu du moule, qu'on a fait un peu son introspection personnelle, j'ai envie de dire, et que on a vu que il y a des choses qui collaient pas pour nous dans le système, et que tu peux t'écarter de ta famille et pouvoir prendre ton chemin plus à toi pour te diriger vers ça.
Moi, je pense que c'est un chemin auquel on est appelé plus ou moins tôt ou tard selon les personnes,
ou pas.
Mais quelque part, je pense que cet appel est toujours là. Enfin, c'était que. On a peut-être cette envie en nous.
Mais on n'en a pas l'écoute.
Mais voilà, plutôt ça.
Et pourquoi on n'en a pas l'écoute, je dirais, parce qu'on est mitraillé de tout un tas d'informations, de divertissements, et qui font tout pour, peut-être volontairement, moi c'est l'histoire du conspirationnisme, j'aime bien, ou involontairement, parce qu'avec toutes les technologies, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et du coup qui nous ont détournés de la voie du chamanisme.
Ouais, c'est du donnant-donnant, en fait. Et tu peux pas avoir des choses juste comme ça, facilement, et qu'en fait, tout se paye. Et par exemple, ces accès aux connaissances et ces perceptions plus sensibles, tout ça, du coup, les expériences magiques qu'on peut en faire, et après, les responsabilités qui en découlent, tout ça, bah, en échange, c'est des sacrifices, c'est des efforts, c'est du travail sur soi. Et que justement, ben, surtout dans ce monde actuel où on est assez coupé de la nature, où la majorité des gens ne peuvent pas parler de ce sujet, ne connaissent pas. Mais quelque part, je pense que le plus gros obstacle pour un futur chaman, c'est la paresse, peut-être.
C'est un peu global, mondial, en fait.
Oui, voilà. Je pense que plus ça que la société ou quoi... pour devenir chaman, il faut se bouger le cul. Il faut accepter de sacrifier des choses simples, rien que faire la fête.
Si tu parles au commun des mortels déjà, là tu pars vraiment déjà vachement loin. Parce que là tu parlerais à quelqu'un qui est aficionados de la chose, qui y croit, parce que déjà globalement, quand on parle de ce genre de sujet, moi en métropole, je parlais de choses, les murs ont retransmettre des ondes, des histoires, des trucs comme ça. Quand je parlais de ça avec mes collègues, tout le monde rigolait et puis c'était fini, les discussions étaient terminées. Ici, en Guyane, on est un peu plus connectés déjà. Peut-être le fait qu'on marche un peu plus pieds nus de temps en temps, qu'on est connecté un peu plus à la nature, que peut-être ça nous connecte. Ou alors peut-être que c'est la nature qui nous a appelés, peut-être même à venir en Guyane. On ne sait pas, parce que c'est mystérieux. Mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté et que par plusieurs biais, c'est possible de se reconnecter. Là, tu parles de travail, de trucs difficiles, ça ne donne pas spécifiquement envie.
Ouais, c'est cette histoire de motivation en fait, donnant-donnant. C'est que tout le monde pourrait être chaman, mais il faut vraiment être motivé. Enfin, je sais que moi j'ai eu des moments difficiles, mais à chaque fois t'as une récompense après quoi. Par exemple, je vais pas. Ce que j'ai fait, c'est 7 jours et 7 nuits en pleine nature, toute seule. Sans alcool, sans tabac, sans drogue, sans. Voilà, avec juste des fruits frais, des légumes. Voilà, à côté d'une source, en plein silence. Et c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Et par contre, c'est là où j'ai eu des merveilleux, des beaux cadeaux, en fait. Et du coup, chaque effort est vraiment récompensé. Mais si tu fais pas le premier effort, y a rien qui va se passer. Et c'est plus facile de. Au lieu de passer, en fait, ces 7 jours, 7 nuits toute seule en pleine nature. Et puis j'ai dû aller trouver le coin et porter ma tente. Donc j'ai fait peut-être 3 heures de marche super chargée avec 2-3 allers-retours pour trouver mon coin, pour être bien. Et tous ces efforts, en fait, j'aurais pu pas les faire et passer. J'étais avec un groupe d'amis, donc j'aurais pu continuer avec eux. Et puis voilà, manger plein de choses et le soir rire et chanter au bord du feu et tout ça.
Mais tout seul, tu peux pas faire ça?
Bah si, je l'ai fait, mais. Mais à un moment, voilà, j'ai senti, là, faut que je me pose. Là. Et puis cet endroit-là, il m'appelle là, à me poser quelques jours. Mais en fait, c'était juste pour expliquer qu'il faut des efforts et que tout le monde peut être chaman. Mais en fait, ce qui va différencier quelqu'un qui est chaman et quelqu'un qui est un chaman endormi, selon moi, c'est quelqu'un qui va avoir la motivation de vraiment travailler sur soi et justement pour recevoir des dons, pour recevoir une ouverture. De conscience, de sensibilité, tout ça, faut travailler, faut donner des choses de soi en fait.
Okay.
Mais c'est pas pour rien qu'on le fait, même si c'est difficile. Après, c'est tellement magique qu'au final.
Ok. Comment t'approcherais une personne totalement réfractaire pour lui faire admettre quelques éléments de choses que tu as vécues?
Partir d'exemples simples.
De ton vécu, toi?
Ouais, ou même lui. Poser des questions à la personne, lui demander est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à une personne très fort et puis à ce moment-là, la personne t'appelle. Des petites choses comme ça.
De la croiser dans la rue.
Voilà. Il y a des petites expériences comme ça, un peu spirituelles, qu'on fait tous. Et donc j'essayerai de discuter avec lui et trouver un petit truc. Sur les pressentiments ou sur la télépathie ou des choses comme ça un petit peu pour...
Ouais, des trucs en fait qu'on ne fait pas consciemment et tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose derrière à gratter dans ce sens-là.
Ouais, voilà, pour montrer... Après, si vraiment dans sa vie, il n'y a aucun élément comme ça facilement trouvable, du coup, je parlerai plus de mes propres expériences, mais je commencerai crescendo. Je commencerai crescendo et justement par raconter des petites choses, genre la dernière fois, voilà, j'ai pensé, j'ai besoin d'un bonnet, c'est vraiment la seule chose qui me manque. Et 10 minutes après, y a quelqu'un qui dit bon, qui veut un bonnet?
Ça c'était où ça?
C'était dans un rainbow, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est un rainbow?
Toutes les choses.
Explique aux gens qu'est-ce que c'est un rainbow.
Mais c'était juste pour expliquer pour une personne qui connaît ouais. Rien, voilà, je raconterai des petites choses comme ça, voilà, okay. Je pense à un truc et hop, la chose elle m'arrive, ou je pense à un tel et hop, voilà.
Okay. Mais... Explique aux gens ce que c'est le rainbow, parce que moi je sais maintenant.
Le rainbow, c'est magnifique. Le rainbow, c'est comme son nom l'indique, c'est un arc-en-ciel de personnes qui se réunissent et c'est des gros babos, hein. des gros babos dans la forêt.
Moi, j'aime bien dire des babos. Des hippies, enfin.
Voilà. Et donc, sur un mois, enfin, c'est calé sur la lune. Donc, de la nouvelle lune à la nouvelle lune, il va y avoir un rassemblement de personnes. Bon, il y aura du taf avant, du taf après. Et n'importe qui peut venir. Qui a envie, il vient. Il n'y a pas de règle vraiment d'interdiction, de choses comme ça.
Et
mais
qui vient
en général...
Parce que décris un peu le truc, parce que tu dis qui vient.
Moi, qui je vient sais au Rainbow.
Ouais, mais au Rainbow, Rainbow, c'est où?
Alors,
ça se passe comment?
J'allais y venir. Du coup, il n'y a pas de règle. Mais en général, c'est toujours dans un lieu différent. Toujours en pleine nature. Assez coupé, donc il y a toujours un parking qui est à une heure, voire cinq heures de marche du lieu. Et voilà, en pleine forêt, ça peut être n'importe où dans le monde.
Ok, donc pas de téléphone.
Voilà, rien d'électronique.
Rien d'électronique.
Pas de réseau. Et voilà, on se retrouve ensemble, on chante.
La nourriture saine, non travaillée, pas de boîte, pas de choses comme ça.
Non, ça sent impensable. Non, non, on vit vraiment le plus connecté possible de la nature. Donc la nourriture va venir de agriculteurs locaux le plus possible, bio si possible. Elle est achetée avec le chapeau magique. C'est un chapeau qui tourne après les repas. En musique, toujours. Il y a une chanson spéciale pour le Magic Hat. Et donc, tout le monde met ce qu'il veut dedans. Que ce soit de l'amour, du prana, de l'argent, s'il en a, ce qu'il peut. Et après, les comptes sont faits. Voilà, on achète. Sinon, il n'y a pas d'argent qui circule. Tous les ateliers sont gratuits, tout le monde participe, il n'y a aucun chef. Il n'y a que des gens qui se proposent comme focalisateurs. Pour voilà, essayer d'organiser un peu le truc, mais aucun chef, on ne te dira jamais quoi faire ou qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Mmh. On te demandera par contre de respecter voilà, telle
ok, tu as parlé d'atelier. Oui. Ça titille un peu la curiosité.
Alors, plein d'ateliers. Et là, c'est complètement libre. C'est complètement ce que les gens ont envie de donner. Et du coup, n'importe qui peut, par exemple, à la fin du repas, se lever, faire une annonce. Et dire que bah voilà, cet après-midi, il a envie de faire un atelier sur le feu. C'était un de mes plus beaux ateliers que j'ai fait. C'était avec un sadhu indien. C'était un rainbow français, donc ça se passait dans les Cévennes. Et ce sadhu, du coup, nous a montré comment faire un feu, mais version énergétique. Ou vraiment avec les quatre éléments. Donc même quand tu prépares ton feu, tu creuses la terre, tu mets de l'eau autour. Voilà. Les bouts de bois, tu les mets d'une certaine façon. Afin que l'énergie elle circule de façon conique et pas. Et donc il disait même qu'il avait fait des expériences de mettre les bûches dans un sens et du coup autour d'un feu, les personnes qui avaient de l'énergie, qui prenaient la parole et tout ça, qui participaient à la soirée activement, étaient les personnes qui étaient alignées aux bûches.
Ah ouais.
Et après, bah, du coup, lui il s'est amusé à, hop, à bouger le feu et tout ça, à changer les bûches. Et, voilà. Et c'est là où il s'est vraiment rendu compte que voilà, l'énergie elle peut changer. Selon comment les bois sont mis, tout ça. Donc voilà, il avait envie de nous apprendre ça et on a passé une après-midi là-dessus. Mais ça peut être des ateliers sur le yoga, ça peut être des ateliers sur.
Des massages, des.
Oui.
N'importe quoi.
Tout est possible. Il y en avait un qui était vraiment marrant. Je ne l'avais pas fait parce qu'il y en avait un autre qui me plaisait plus. La respiration holotropique m'avait beaucoup plu. Non, c'était respiration tantrique. Et c'était un atelier, c'était une fille qui avait proposé de marcher. Très lentement en silence. Et du coup.
Ah ouais, le kiff total.
Ils étaient à 5 en ligne et ils marchaient au ralenti. Voilà. C'est juste que je suis passée à côté d'eux en allant vite à ma tente chercher un petit truc. Et
du coup, ils ont le temps d'observer, quoi. De regarder.
Ben,
regarder
voilà, c'était leur atelier à eux. Et du coup, t'as des gens vraiment. Ce que la majorité pourrait appeler perchés. Mais en fait, ça, pour moi, c'est des gens. Conscients. Après, peut-être qu'ils ne sont pas forcément conscients de cette réalité actuelle. Enfin, ils peuvent être un peu dans un autre monde, mais c'est un monde qui n'est pas forcément irréel non plus. Quoi. Mmh. Mais. Voilà.
C'est un monde de connexion, tout ça.
Et justement, ce n'est pas facile à faire cet équilibre, à réussir à être perché, ancré, à la fois, en fait. Être dans les deux, être dans. dans la réalité, dans la matière, dans qu'est-ce qui se passe là dans notre société, et en même temps de réussir à monter, t'envoler, de voir toutes les possibilités, tous les esprits, de parler avec les arbres, de leur faire des câlins, et puis après parler sérieusement avec quelqu'un d'un sujet.
Ouais. Parce que là, on effleure à peine la chose. Vous imaginez pas toutes les histoires que j'ai eues.
Et encore, il ne sait pas tout.
Et encore, je ne sais pas tout. Apparemment, je n'ai pas eu encore les meilleures histoires. Mais du coup, c'est un monde de l'invisible, en fait, de l'énergétique. La planète, de toute façon, est énergie. Nous sommes énergie. Nous sommes de l'électricité. Le moindre réaction, le moindre mouvement physique.
On est même c'est du l'énergie. Vide. Et on est de l'espace.
On est du vide aussi.
On ça. Est 0,1% de matière. C'est magnifique.
C'est magnifique. Les scientifiques pourront peut-être nous laisser un message sur le site pour nous expliquer ça plus précisément, parce que moi, j'ai pas bien compris, hein, franchement. Voilà. Sur quoi rebondir ensuite ? Une expérience marquante que tu aurais envie de nous raconter, là. Pas spécifiquement Rainbow, mais une expérience que tu aurais vécue.
Bon, je vais raconter la première qui m'est venue en tête, hein, parce qu'apparemment, c'est celle-là que je te racontais. J'étais à un salon du bien-être en Alsace. Et il y avait un stand avec plein de cristaux, plein de pierres. Et je m'amuse à les prendre dans ma main, à les sentir. Et là, justement, je sens vraiment une énergie particulière pour chaque cristaux. Et il y en a un qui m'attire. Vraiment, il y en a un qui m'attire. Mais quand je le regarde, je le trouve moche. Il est super kitsch, quoi.
Comme le Graal, quoi.
Ouais, il y a un dragon doré dessus. Du coup, je trouve ça vraiment kitsch. Et dragon, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu...
C'est facile.
Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas... À la fois, ça m'attire sans m'attirer. Ça m'attire pas en m'attirant, en fait. C'était très spécial. Bref, à un moment, bah, hop, j'arrive, je prends ce cristal en main. Et là, en fait, la nana qui était au stand tournait le dos. On était trois autres femmes. Et au moment où je prends le cristal en main, elle se retourne et fait « Oh, il y a un dragon qui vient d'arriver !» Et elle se retourne et dit « Qui c'est qui l'a appelé ?» Alors moi, je baisse les yeux, je fais genre « C'est pas moi, je sais pas. » Et pourtant, derrière moi, je sens une grosse chaleur, quoi. D'un coup, je suis chaud, enfin, je sens... Et puis, elle regarde les deux autres, puis, je sais pas, elle me regarde moi et elle me dit « C'est toi hein. !» Du coup, je lui montre ma main, ce que j'ai, elle dit « Ah, c'est toi, attends, je vais appeler ma fille. » Elle appelle sa fille. Elle commence à me dire que sa fille est dragonnière. Que c'est plutôt dragon. Ouais, ça me dépassait complètement. Ça me dépassait complètement. Après, c'est plus que j'en avais pas entendu parler encore. Mais je trouvais pas ça impossible non plus. Mais je sais pas, il y avait quelque chose d'hyper bizarre dans cette expérience. Dans ce que je ressentais, un peu... Ouais, beaucoup de chaleur et un peu ouais, dépassé. Bref, je discute un peu avec la fille et rapidement, ce cristal en fait il me plaît quoi, je peux même plus m'en séparer et tout. C'était juste avant mes 30 ans, donc j'étais avec ma mère qui me dit le cristal coûtait assez cher, quelque chose comme 50-60 euros. Mm-hmm. Du coup, ma mère me dit bon, bah allez, c'est ton cadeau d'anniversaire, t'es 30 ans. Donc, toute contente, je veux pas attendre, je veux le porter tout de suite sur moi. Je le porte, ensuite, ben, après le salon, on va au cinéma. Au cinéma, j'enlève mon pull. Quand je reviens chez moi, je vais prendre ma douche. Je ne trouve plus mon pendentif. Je l'ai perdu, mais direct. Et je suis retournée au cinéma, j'ai attendu la fin de la séance, j'ai cherché sous tous les sièges, disparu, quoi. Plus de pendentif. J'en deviens, mais malade. On était en avril, donc ouais, un mois et demi avant mon anniversaire. Et... J'avais déjà perdu mon cadeau mes 30 ans que ma mère m'avait fait, le super pendentif. J'étais dégoûtée. Et j'ai pris contact avec les personnes qui vendaient ça. Et donc le lendemain, elles m'ont proposé de venir chez elles. Et c'est quand je suis allée chez cette personne, donc c'était un homme, le mari en fait de ceux qui avaient vendu. Et Je lui explique mon histoire. Il fait ok. Et il me fait essayer. Donc pareil, je ressens, hein, dès que je prends le cristal, c'est fou. Il y a une montée, il y a un truc qui se passe, une différence de sensation en fait. Et après, il dit ok, maintenant on va essayer avec un autre. Et là, il m'en met un autre. Et là, pff, c'est genre comme une explosion par contre. C'est tellement fort, ça. Je sais pas comment l'expliquer en fait dans le ressenti, mais c'est comme si on souffle un truc. Je pourrais pas l'expliquer avec des mots. Mais c'est genre 100 fois plus fort que l'autre. Et en fait, bah, il me dit bah voilà. En fait, je comprends ce qui vous est arrivé. Bah, déjà, de un, c'est que ce premier pendentif, il n'est pas perdu. Ce qui devait arriver à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va tomber dessus ou voilà, qui va faire son travail avec lui. Et le deuxième chose, c'est que le pendentif que je vous ai fait essayer, le deuxième, là, bah, il est vachement plus puissant. Bon, il coûtait beaucoup plus cher, le double du prix aussi. C'était la version diamant, ouais. Et en fait, il me dit, bah, c'est comme si vous étiez vous étiez une pilote de Formule 1 qui roulait en deux chevaux. Bah, il vous faut une Ferrari, quoi, c'est tout. C'est pour ça que le premier pendentif n'était pas adapté pour vous, parce que votre énergie, tout ça, il vous faut la gamme au-dessus. Voilà, il m'a fait prendre le pendentif. Et quand je l'ai pris, d'un coup, bah, la température qui monte, vraiment chaud. Et là, il m'a dit, bah, vous avez un dragon qui est là, qui apparaît. Et dit, mais c'est bizarre. Vous connaissez les dragons? Alors je lui dis, non, je ne connais pas du tout. Il dit, parce que là, c'est un maître dragon qui vient. Et du coup, c'est bizarre parce que quelqu'un qui démarre avec les dragons, il a un dragon, il n'a pas un maître dragon tout de suite. Et dit, je comprends pas.
T'es la reine des Pokémon.
Je vais essayer de comprendre. Et du coup, bah là, il pose des questions avec lui, tu vois. Et moi, je suis là. Et je sens plein de trucs en moi. C'est hyper. Et en fait, il me dit, bah, en fait, là, vous vous retrouvez. Et au moment où il me dit ça, c'est comme si, voilà, je pouvais mettre un mot dans tout ce que je ressentais. Et j'ai des larmes qui coulent. Et pourtant, vraiment, je fais, je veux pas me laisser engranger là-dedans, si c'est pas, enfin, je suis pas ouverte à n'importe quoi et tout ça. Enfin, je reste vraiment, ok, je veux faire des expériences spirituelles et tout, mais faut que ce soit des vraies expériences, quoi. Qu'est-ce que je ressens et tout. Et en fait, c'est comme si d'un coup, un voile qui se déchirait, des portes qui s'ouvraient et ce que je ressens, c'est comme si je revoyais quelqu'un qui m'était super cher et que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Mais vraiment cette sensation où tu as envie de pleurer de joie, pleurer de bonheur, comme quand tu retrouves quelqu'un, voilà, mais la personne que tu aimes le plus au monde et que tu n'as pas vu depuis une éternité, quoi.
Ok.
Et j'ai vraiment cette sensation. Et du coup, voilà, il m'explique, ah ben, en fait, dans d'autres vies, t'étais une maître dragonnière.
Voilà.
Et
c'est là que je voulais
en venir. T'as très bien connu les dragons. T'as beaucoup travaillé avec eux. Vous avez fait beaucoup de choses. Et en fait, à un moment, t'as voulu faire une pause avec les dragons. Et maintenant, c'est le temps où, voilà, vous vous reconnectez de nouveau. Et là, vous allez avoir beaucoup de travail encore à faire ensemble. Ce dragon-là, il te dit merci pour tout ce que vous avez déjà fait et merci pour tout ce que vous allez faire. Il est vraiment très content de te revoir. Et d'entendre ça, c'était, je pleurais et je ressentais exactement ce qu'il entendait me dire. Je ne sais pas, ouais, c'est ce que je ressens, quoi. Je ressens que c'est juste, que c'est vrai. Et puis tu sens en face de toi, même si tu ne peux pas le voir, mais tu le sens, parce que surtout un dragon, c'est hyper imposant en énergie et ça te donne chaud. Et puis c'est gros, quoi. C'est pas, tu sens un petit truc sur la droite ou quoi. Tu sens un gros machin. Et du coup, ouais, c'était la première expérience avec les dragons. Hyper dingue. Et quelques temps après j'ai multiplié ces expériences avec les dragons. J'ai vraiment appris à les connaître et tout. Et c'est rien qu'ils m'ont emmené en fait dans leur monde, dans un voyage. Ils m'ont fait visiter, j'étais avec un dragon, ils me montraient, bah voilà, là c'est les bébés, les jeunes, ils étaient en train de se bagarrer, enfin tu sais, de jouer, tout ça, ils étaient complètement indisciplinés. Et en fait, ils montraient l'armée, quoi. Et j'étais invitée à. On marchait sur un long truc et puis ils montraient, voilà, je voyais les entraînements de dragons, tout ça, enfin, tout un monde de dragons de fou. Et on a fini par voler. Et la sensation, c'était un truc de fou. Et c'est pas pareil que quand je rêve, quand je fais d'autres rêves et tout. Ouais. J'ai vraiment une différence de quand je rêve et que je reçois un message, ou quand je rêve et que je fais un voyage, en fait. C'est tout, trois sortes de rêves complètement différents dans les sensations.
Ça s'est passé ça quand tu dormais ?
Oui.
Ouais, quand tu dormais.
En fait, oui, voilà. C'est pendant la nuit. Et après, la façon dont je me réveille est différente. Et tout le souvenir que j'ai par rapport à cette histoire, c'est différent. Là, je revois comme encore si des images. Et...
Ouais, comme si c'est un rêve, mais tu te réveilles et tu y es... Comme si tu venais juste de les quitter, dire bah salut,
oui,
et tu te rappelles de tout ton rêve, quoi.
C'est ça, c'est ça. Okay. Alors d'habitude, si c'est des rêves, les rêves avec messages sont un peu plus flous, mais je m'en souviens. Et les rêves tout simples, bon, ils partent au bout de quelques minutes, quoi. Ouais. Alors que là, j'ai encore tout le souvenir exact de comment c'était, quoi. C'était vraiment cadeau, quoi. Cadeau.
Ouais, ça a l'air marrant.
Hein. Et après, du coup, depuis, bah, c'est vraiment un des esprits que j'appelle. Les dragons pour me protéger, ou là où je m'en sers beaucoup, c'est quand j'ai froid, quand je suis dans ma tente et tout, en pleine nature, et que j'ai froid, j'appelle mon dragon, et c'est un truc de fou, comme j'ai chaud et je peux m'endormir après. Et vraiment, je l'ai testé plusieurs fois, je l'appelle, et puis je dis vas-y, mets-toi à côté de moi, et d'un coup, ah bah je suis moins crispée, je peux me détendre, j'ai chaud, je m'endors, et tout ça. Et voilà, j'avais envie de parler des dragons.
C'est vraiment... C'est une sacrée histoire, c'est génial.
Mes grands amis, quoi.
Eh ben, ça fait rêver. On va arrêter là pour aujourd'hui.
Ok, merci.
C'était vraiment très, très intéressant. Ben... J'ai retenu l'histoire des vies antérieures. Et je pense qu'on fera un Au-delà des Pécas numéro 2 avec Témili. On parlera un petit peu plus profondément de ces histoires de vies antérieures qui sont très, très intéressantes également. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Et bonne soirée.
Une bonne soirée à tous.
Radio PK.